L'actualité francophone avec RFI, la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le canton de Vaud qui pourrait être le premier en Suisse à créer une assurance santé pour les soins dentaires. Au Canada, le gouvernement Trudeau a présenté son troisième budget fédéral, un budget résolument féministe. Faut-il arrêter administrativement les sans-abri qui refusent les hébergements de nuit par grand froid? Eh bien, on verra que la question se pose aussi en Belgique. Au programme également, 2 ans et demi après le coup d'État manqué au Burkina Faso, le procès des 84 accusés s'est ouvert cette semaine à Ouagadougou. Procès aussitôt suspendu. Enfin, on reviendra sur cette opération franco-belge qui a permis d'arrêter un violeur en série. Il a reconnu près d'une quarantaine d'agressions entre les deux pays. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Suisse, Pierre Anchauffat, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a subi un nouveau revers sur la question de l'égalité homme-femme.
Oui, le principe à travail égal, salaire égal est inscrit dans la Constitution depuis bientôt 40 ans, mais les femmes gagnent toujours 18% de moins que les hommes, dont près de la moitié peut être attribuée à une discrimination liée au sexe. Simonetta Sommaruga se bat pour corriger le tir depuis des années, mais sa volonté de contraindre les entreprises à la transparence salariale a été progressivement vidé de sa substance et cette semaine, le Parlement l'a même renvoyé en commission pour le réduire à une simple autodéclaration des entreprises.
Benoît Audet au Canada, votre personnalité de la semaine, c'est la chef du Parti souverainiste au Parlement fédéral.
Oui, Martine Ouellette, chef du Bloc québécois à Ottawa, elle est au cœur d'une véritable crise. 7 des 10 députés de son parti ont claqué la porte. Ils sont en total désaccord avec sa façon de voir les choses. Depuis qu'elle a pris les rênes du Bloc l'année dernière, elle voudrait que le parti se consacre exclusivement à la promotion de la souveraineté, alors que la majorité des députés veulent d'abord et avant tout défendre les intérêts du Québec à Ottawa.
En Belgique, Nathalie De Vic, le trophée du Bruxellois de l'année 2017 a été attribué.
Un prix attribué chaque année par la presse et les internautes qui souhaitent ainsi valoriser le travail d'une personnalité bruxelloise. Et cette fois, plus qu'une personnalité, c'est toute une équipe solidaire qui s'est vue récompensée par près de 20 000 votants. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, une association de bénévoles qui hébergent et viennent en aide aux migrants de la capitale. Sa figure de proue, Mehdi Kassou, a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable, tant auprès des médias que du monde politique. Des politiques souvent accusées par la population de ne pas en faire assez pour accueillir dignement les nombreux demandeurs d'asile.
En France, Marine Le Pen, mise en examen, elle est accusée d'avoir diffusé des photos violentes sur Twitter. Les faits remontent à décembre 2015. La présidente du mouvement d'extrême droite avait publié les photos d'un soldat syrien écrasé vivant par un char, puis celle d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage, et aussi le corps décapité du journaliste américain James Foley. Eh bien, Marine Le Pen voulait ainsi réagir aux accusations qui font un parallèle entre Daesh et son parti, le Front National. Elle risque désormais 3 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et elle dénonce au passage une atteinte à la liberté d'expression. C'était une pionnière de l'étude de la littérature africaine francophone. Liliane Castello est décédée cette semaine à Paris. Elle avait 87 ans et pendant de nombreuses années, l'universitaire belge a enseigné à l'université de Dakar au Sénégal. Alexis Guilleux.
Oui, Liliane Castello était l'une des plus grandes spécialistes des auteurs d'Afrique francophone. Sa thèse sur les écrivains noirs de langue française, soutenue en 1961 à Bruxelles, constitue un travail pionnier dans l'étude des lettres francophones africaines. L'universitaire a également mené un vaste travail de collecte des récits et des traditions orales ouest-africaines. La sonothèque, qui a vu le jour au fil des années, regroupe plus de 2000 enregistrements. On y entend des griots raconter et chanter les contes et légendes d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Mali, en passant par le Burkina Faso.
En ce dimanche, les Suisses ne votent pas uniquement sur la question de la redevance radio-télé. Pierre Anchauffat, dans le canton de Vaud, les citoyens votent aussi pour créer une assurance pour les soins dentaires.
Eh oui, car en Suisse, la visite chez le dentiste, le traitement d'une carie ou un détartrage, tous ces frais ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ou une autre assurance sociale. En cas de oui dimanche, le canton de Vaud serait donc le premier à mettre sur pied une assurance publique et obligatoire pour les soins dentaires. Les initiants issus de la gauche gauche estime que le traitement des dents doit enfin être reconnu comme un enjeu de santé publique. L'hygiène buccale, pour eux, ne relève pas de la seule responsabilité individuelle.
Et comment serait financée cette nouvelle assurance ?
Eh bien, c'est évidemment la question clé, même si les opposants disent aussi craindre que les personnes renoncent aux efforts de prophylaxie dentaire quand les soins seront remboursés. L'idée, en fait, est simple, une cotisation sur les salaires à part égale entre l'employeur et l'employé, comme l'explique l'initiant Pierre Conscience.
Une personne qui gagne 5 500 francs par mois paierait une cotisation sociale de 25 francs par mois et aurait ainsi tous ses frais de santé bucco-dentaire garantis face aux 500 francs par année en moyenne et par personne en Suisse que ça coûte. Il y a vraiment un gain pour la majorité de la population.
Mais ce renchérissement du coût du travail fait bondir Christophe Raymond du Centre patronal vaudois.
Ce que nous ne souhaitons pas aujourd'hui, c'est voir se rajouter une couche supplémentaire qui s'en viendrait financer une assurance dentaire. On ne comprend pas d'ailleurs quel est le rapport entre un impôt qui viendrait frapper le travail et une assurance de frais dentaires. Nous considérons que le travail ne fait pas mal aux dents.
Oui, un scrutin tendu à l'issue incertaine, mais qui a valeur de test pour les autres cantons.
Le gouvernement du Canada vient de présenter son budget. Il s'agissait du troisième budget du gouvernement Trudeau depuis son entrée en fonction en 2015. Benoît Audet, ce budget est résolument à saveur sociale.
Oui, on retrouve de nombreuses initiatives dans ce document qui débordaient du strict cadre budgétaire. Le budget évoque la réconciliation avec les Autochtones, mais surtout l'égalité des sexes. Le premier ministre Justin Trudeau se dit féministe, il le répète partout. Ça a été le cas, entre autres, au Forum économique de Davos, et ce budget reprend ce credo. L'égalité des sexes constitue ni plus ni moins que la trame de ce document. Le gouvernement Trudeau veut promouvoir la place des femmes sur le marché du travail. Il veut aussi faire en sorte que les femmes obtiennent un salaire équivalent à celui des hommes, mais ce ne sont là que quelques-unes des mesures qui vont en sens.
Alors, un budget, c'est aussi un exercice politique. Celui du Canada n'y échappe pas. Et il y a bien sûr des mécontents.
Oui, contrairement au gouvernement conservateur qui l'a précédé, le gouvernement Trudeau n'est pas préoccupé par les déficits budgétaires. Ce budget l'est déficitaire. Il n'y a pas de cible de retour à l'équilibre. Voici ce qu'en pense le chef de l'opposition conservatrice, Andrew Scheer.
Les prochaines générations doivent payer la dette que Justin Trudeau augmente aujourd'hui. C'est pas juste. C'est la raison pour laquelle les conservateurs sont toujours battre contre les déficits, parce que c'est pas juste pour les prochaines générations.
Le budget déposé cette semaine est en quelque sorte un budget de transition. On s'attend à un document plus costaud l'année prochaine en vue de l'élection qui est prévue à l'automne 2019.
En Belgique, Nathalie Devic, plusieurs villes ont adopté une ordonnance d'urgence qui permet d'arrêter administrativement les sans-abri qui refusent les hébergements de nuit.
Car notre pays, comme beaucoup d'autres, a été confronté cette semaine à des températures glaciales, jusqu'à près de moins 20 degrés, inhabituelles, mortelles même, pas loin de chez nous. C'est justement pour éviter que cette vague de froid extrême fasse des victimes dans leur commune que plusieurs bourgmestres, nos maires, à nous, ont pris l'initiative d'ordonner aux forces de police d'arrêter les récalcitrants pour les protéger d'eux-mêmes, quitte à les mettre au chaud contre leur gré. Et de fait, pas toujours simple de convaincre les personnes sans-abri de rejoindre les centres d'accueil de nuit. Les travailleurs sociaux qui les suivent en rue connaissent bien le problème. Les raisons de leur refus, quelles que soient les températures, sont multiples. Peur des bagarres, des vols, des maladies ou simplement des autres en général.
Parfois, c'est simplement parce qu'elles n'aiment pas les abris de nuit, elles n'aiment pas la vie en communauté. Et ça, l'abri de nuit, c'est systématiquement une vie communautaire. Pour d'autres, et c'est assez courant, ce sont des problèmes d'addiction. On leur demande de ne pas consommer d'alcool ou de stupéfiants dans l'abri de nuit. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne leur est pas possible. Et il y a encore une partie des gens qui préfèrent rester dans un squat parce que sans doute ils ont aménagé le squat de façon à ce qu'il soit plus intime, plus confortable.
Plus intime mais non chauffé, mettant leur vie en danger, estiment les autorités. Alors faut-il pour autant aller jusqu'à les arrêter ? La mesure ici divise, même si elle se défend moralement. Laisser des gens mourir de froid en rue, c'est contraire à l'ordre public. Mais pour les acteurs sociaux, ce n'est pas cela qui réglera les racines du mal, le problème plus général de la précarité. Et puis légalement, cette fois, plusieurs avocats soulèvent la question de la liberté de choix individuel. La seule raison qui pourrait justifier une arrestation serait la maladie mentale. Encore faut-il pouvoir l'établir. D'ici à ce que les températures se réchauffent, le débat n'aura sans doute pas beaucoup avancé.
L'actualité africaine, c'est cette dernière attaque à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ouagadougou, où s'est ouvert cette semaine un procès d'envergure. 84 personnes sur le banc des accusés. Il s'agit de tenter d'établir les responsabilités du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Et après la première audience, il y a quelques jours, eh bien, ce procès a tout simplement été suspendu à cause du retrait des avocats de la défense, Alexis Guilleux.
2 ans de procédure, 15 000 pages de dossier. Parmi les accusés, Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major du président déchu, Blaise Compaoré. Il avait pris la tête du putsch en septembre 2015. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et violence. 14 personnes avaient été tuées lors de ce coup d'État. Pour Bamouni Babounébon, porte-parole de l'Association des familles de victimes, ce procès est aussi un défi pour la justice du Burkina Faso.
Il y a l'enjeu qui concerne le renforcement de notre justice. Pour moi, après l'insurrection populaire de 2014, un enjeu majeur, parce que ce qui était reproché aussi, c'est l'absence de justice, c'était l'impunité. Donc pour moi, c'est un test.
Et après les premières heures d'audience, mardi, les avocats de la défense ont préféré se retirer. Ils disent ne pas reconnaître la légalité du tribunal militaire devant lequel se déroule le procès. Maître Olivier Yelkouni est l'avocat de Gilbert Diendéré.
Nous ne voulions pas être complice d'une violation flagrante de la loi. S'il régularise, nous sommes prêts à revenir. Nous sommes pressés que ce procès ait lieu dans les conditions légales normales, pas dans la précipitation, pas dans l'illégalité, pas dans la violation de la loi.
Les avocats des partis civils dénoncent cette stratégie de la défense. Ils pointent du doigt un moyen pour les accusés de se soustraire à la justice et font part de leur inquiétude après la suspension du procès. Pour le moment, aucune date de reprise n'a été annoncée.
En France, la justice a mis la main sur un violeur en série qui agissait depuis près de 30 ans. Des agressions, toutes commises dans le même secteur, près de Maubeuge, parfois dans des chemins de campagne, à cheval, entre la France et la Belgique. Il a avoué une quarantaine de viols et agressions sexuelles. Il s'agit d'un ouvrier de 57 ans, marié, père de 3 enfants, bien intégré dans son village de Pons-sur-Sambre. Très investi, il a même été entraîneur puis président du club de football local. Alors pour identifier ce prédateur sexuel, la police française a travaillé main dans la main avec les collègues belges. Il a fallu l'agression d'une jeune belge mineure qui se rendait à l'école pour que son témoignage, appuyé par des images de vidéosurveillance, permette d'identifier une plaque d'immatriculation et enfin donc de localiser le suspect. L'ADN a fait le reste. Les précisions avec le procureur de Valence. Ancienne, Jean-Philippe Vincentini.
Tous ces faits, c'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage. Je dirais que globalement, cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Et celui qui est baptisé le violeur de la Sambre est désormais sous les verrous. Les enquêteurs le soupçonnent d'autres viols bien au-delà de la quarantaine qu'il a déjà reconnus. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine. Même endroit, même heure.